Deutsche Welle, magazine environnement.
Le magazine environnement cette semaine, c'est depuis le Bourget en France où se déroule la COP21, la conférence des Nations Unies sur la lutte contre les changements climatiques. Kosivitiasou au micro. Forte émotion à l'ouverture de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques au Bourget, non loin de Paris, en France. Une minute de silence a été observée en mémoire des victimes des attaques de Paris le 13 novembre dernier. Même à l'intérieur des salles, des policiers en uniforme circulent entre les rangées de tables. Ils vérifient même que les places réservées sont occupées par qui de droit. Ils règnent comme une jolie pagaille. Il faudra scruter les discours des chefs d'État qui se sont exprimés. Voici les lignes bouge sur l'accord en vue. Nous avons rencontré Sena Aluka de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Il est venu du Togo. Oui, bonjour Sena Aluka.
Bonjour.
Vous êtes à la conférence, à la COP21 à Paris. Nous sommes en ce moment au Bourget. Ça a démarré aujourd'hui avec la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Et ils étaient plus de 150 à répondre présents à ce rendez-vous sur le climat. Dans un premier temps, quelles sont vos impressions ?
Non, c'est quand même intéressant de voir ce balai présidentiel. Ça démontre d'un fort intérêt politique pour la chose du changement climatique. C'est vrai que citoyens que nous sommes très alarmés. Nous avons énormément peur. Maintenant, quand tu es encore un citoyen africain, tu sais que tu es doublement frappé par les conséquences du changement climatique. Vous savez que nous émettons environ moins de 4% des émissions mondiales de CO2, ça veut dire que nous sommes faiblement responsables, mais nous subissons plus de la moitié des effets de ce changement climatique. Et donc, pour nous, c'est quand même bien qu'il y ait le chef d'État. Maintenant, comme l'a dit tout à l'heure le président togolais, le temps des discours est passé, il faut passer à l'action. Nous ne savons pas encore ce que ça va donner, ça va accoucher cette grande conférence du climat à Paris. Mais en tout cas, je crois qu'en tant que citoyen, c'est bien qu'ils soient là, ceux qui ont été élus. Et nous sommes là aussi pour nous assurer que les décisions prises ici soient effectivement mises en œuvre.
Les décisions soient mises en œuvre. C'est la première fois d'ailleurs que cette conférence commence par une réunion de haut niveau avec les chefs d'État. C'est un signe que les choses vont changer cette année et qu'une décision est au rendez-vous.
Il faut avouer que la conférence de Paris bénéficie d'un concours de circonstances. Concours de circonstances parce que ça ne fait pas longtemps, une immigration qui ne donne pas son nom s'est abattue sur l'Europe. C'est des milliers de Syriens, d'Afghans, d'Africains qui accostent chaque jour les côtes grecques. Et tout semble confirmer que de cette crise migratoire, eh bien, il y a aussi une cause sous-jacente climatique. Il y a aussi les attentats de Paris qui ont provoqué une vague de solidarité vis-à-vis de la France. Donc quand la France dit « viens à la conférence de climat » et que tu doutais en tant que président et que du coup il y a eu l'attentat du 13 novembre, eh bien tu te dis « mais quand même il faut y aller, en même temps je fais d'une pierre deux coups, on a vu tous les présidents se précipiter d'abord au Bataclan, ensuite de venir ici ». Mais il ne faut pas non plus négliger aussi qu'on comprend aujourd'hui que tout est lié. Donc les chefs d'État comprennent que il ne sert à rien de mettre en place des infrastructures de haut niveau, les grands barrages, les grandes routes, et quand il n'y a pas une bonne planification qui intègre le changement climatique. Donc, mais aussi, il ne faut pas oublier que pour l'Afrique, ce que nous cherchons, ce que cherche le président africain, c'est les 100 milliards promis à Copenhague. On espère qu'ici, eh bien, on va commencer par faire les calculs, les vrais calculs, pas ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. L'OCDE a publié son rapport la semaine dernière, qui a estimé que jusqu'à aujourd'hui, depuis que la promesse a été faite, donc entre 2009 et 2015, on a vu environ 64 millions qui sont passés. Or, nous sommes en train de nous diriger vers une ligne de 2020 où on doit avoir 100 milliards chaque année. Donc, si sur les 5 ans, on n'a eu que 64 milliards, quand est-ce qu'on va arriver à avoir les 100 milliards en 2020 ? Donc, les chefs d'État africains, mais aussi des petits États insulaires, se précipitent aussi pour venir ici pour s'assurer qu'il y ait de l'argent sur la table. Parce que si la conférence de Paris doit péricliter, elle périclitera sur une base de manque de ressources financières.
Oui, vu cette mobilisation, cela annonce quand même un accord contraignant ici à Paris. On voit la mobilisation, le président américain est là, les chefs d'État africains se sont mobilisés autour du président français. C'est différent.
Je ne vous coupe
pas. Mais écoutez, cela veut dire que les chefs d'État aujourd'hui présents, entre les chefs d'État, ils vont déjà trouver un accord, ils se mettront d'accord. Et leurs représentants ne feront que peaufiner la chose, ne pourront que peaufiner le test pour définitivement l'adopter.
Je ne veux pas être pessimiste, je ne veux pas être pessimiste sur les conclusions de la conférence de Paris, mais je m'aborde d'un optimisme mesuré. Parce qu'ils étaient autant nombreux, ces chefs d'État, à Copenhague, ils ont promis 100 milliards.
Mais c'était à la fin de la conférence. Cette fois, c'est au début de la conférence qu'ils sont venus et les consignes seront données.
Il se fait tout simplement que ces présidents quittent tous Paris demain soir. Déjà, demain soir, ils sont tous partis. Et le jeu politique se fera au niveau des techniciens. Et très souvent, ce à quoi nous avons assisté, c'est qu'ils parlent tous d'une même voix, réduire les émissions, mettre de l'argent, transférer la technologie, bâtir un monde, des sociétés beaucoup plus résilientes. Mais à la fin, eh bien, les jeux géopolitiques l'emportent sur les raisons scientifiques. C'est-à-dire qu'à la fin, quand il va falloir décider des derniers documents, vous savez qu'actuellement, le document de l'accord de Paris, nous avons encore un document de 50 pages, il faut arriver à un document d'environ une vingtaine de pages. Et pour ce faire, quand on va faire l'élagage, nous craignons qu'il y ait davantage de compromis, des compromis qui font que nous allons perdre l'essence de ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas dépasser le cadre des 2 degrés Celsius. Donc, mon cher ami, je veux aussi être optimiste comme vous, mais je suis très mesuré parce que ces présidents ne seront pas là. Ce n'est pas eux qui vont négocier dans certaines mesures. Ce sont les techniciens. Et quand les techniciens vont appeler les différentes capitales, c'est le jeu politique, c'est le jeu géopolitique qui va plus l'emporter. Et c'est pour ça que nous voulons continuer en tant que société civile à mettre la pression. Nous serons là à travers les différents centres. Vous savez, à Paris, il n'y a pas que le Bourget, il y a le site des espaces Génération Climat, il y a Montreuil avec les alternatives, il y a la gare du Nord avec un monde de solutions là-bas. Donc nous voulons mettre la pression au maximum pour que les engagements pris, pour que les bonnes paroles qu'on a entendues aujourd'hui de la bouche des chefs d'État, et bien ces paroles soient prises en compte quand il va s'agir de commencer à réduire, à faire le commentaire ou le résumé de ces 50 pages que nous avons aujourd'hui. En tout cas, nous espérons que Paris va donner quelque chose. On ne va pas assister à un Paris-Hague comme Copenhague, ça ne va pas être un Open-Hague, mais on va assister à quelque chose d'intéressant pour que, en tout cas pour l'Afrique, nous puissions vraiment nous adapter aux conséquences aujourd'hui irréversibles du changement climatique.
Merci, Sénat Aluka.
Merci.
Le président togolais cité tout à l'heure par Sénat Aluka était aussi présent. Fornia Singbe nous a accordé quelques secondes entre deux rendez-vous.
Nous, notre réflexion, c'est que maintenant, il faut agir. Parce que si, pour certains pays, ils ont encore le temps d'attendre et ils s'inquiètent pour la planète de façon générale. Nous souffrons, nous subissons déjà ces dégâts-là. Donc les réponses, on les attendait hier. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est déjà trop tard. Donc c'est un peu ma réflexion. Donc ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'agir, qu'on puisse agir pour que au moins ceux qui subissent les effets puissent avoir l'impression qu'on les entend.
C'est pourquoi le Togo peut faire la protection des côtes à la place d'une route.
Oui, ce que je dis, c'est qu'il y a une priorité. J'ai simplement cet exemple que j'ai donné. Comme vous le savez, il y a déjà 2 routes dans la mer. Et sinon, on ne prend pas garde. La 3e route aussi, on la retrouvera dans la mer parce qu'on nous dira qu'il y a déjà une forte accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc c'est déjà trop tard. Donc, au moins, agissons maintenant. L'urgence, limitons l'avancée de la mer et puis après, occupons-nous de la route. Maintenant, s'il y a beaucoup de financement, on peut faire les deux. Hein.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Non loin du président togolais, au Bourget, nous croisons l'homme politique malien Soumaïla Cissé. Oui, vous êtes à Paris pour la COP, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP21. Que cherche M. Cissé ici?
Non, je crois que je suis venu participer à ma façon à cette grande négociation. Je crois que l'avenir de la planète nous concerne tous. Et aujourd'hui, nous avons je suis originaire d'un pays qui est vraiment très, très soumis aux aléas climatiques, le Mali, le Sahel de façon générale. J'ai eu moi-même à diriger une organisation qui s'occupait particulièrement de cela. Et je crois qu'ici, je suis venu apporter mon soutien, ma solidarité. Et je crois que c'est un moment très important où chacun de nous doit pouvoir dire stop aux menaces sur la planète. Stop à la gabegie. Et je crois qu'aujourd'hui, tous unis, nous devons pouvoir faire quelque chose. Moi, ce que je souhaite, c'est que vraiment on sorte avec une feuille de route. C'est vrai qu'on ne peut pas régler tous les problèmes aujourd'hui, mais la conscientisation et la présence aujourd'hui de si nombreux chefs d'État ouvrent des perspectives, meilleures. Mais il est évident que nous, de l'Afrique, en particulier de l'Afrique sahélienne, nous attendons encore un peu plus. Il faut lutter contre la pauvreté. Et pour lutter contre la pauvreté, il faut faire en sorte qu'il y ait des perspectives pour les plus pauvres. Donc investir massivement dans l'agriculture, investir massivement dans l'élevage, investir massivement dans la conservation des sols et la lutte contre la désertification. Je crois que sans cela, nous allons continuer à avoir des drames qui vont au-delà, bien sûr, des Clément, qui vont avoir des drames humains. Et nous voyons ce que fait la migration, de façon générale. Et je crois que c'est tout ça que nous devons mettre sur la table pour qu'il y ait une vraie sécurité alimentaire, qu'il y ait de vraies perspectives d'emploi pour les jeunes, qu'il y ait des investissements massifs pour remettre aussi l'Afrique dans la marche vers l'émergence. Je crois que c'est tout ça que je suis venu rechercher ici.
Vous êtes un homme politique très connu, populaire dans votre pays. Et est-ce que l'homme politique africain aujourd'hui joue sa partition dans la lutte contre le changement climatique?
Je crois que les hommes politiques africains aussi ont une grande responsabilité. Parce que d'abord, une responsabilité en matière de communication, en matière de prise en charge des problèmes de climat et des problèmes de dégradation dans leur propre programme. Je crois que ceci est quelque chose de très important pour pouvoir puiser sur la conscience de tous les citoyens et amener les gens à avoir des comportements citoyens. Je crois que c'est ça notre grande responsabilité. Peut-être que nous ne jouons pas encore assez parce qu'il y a tellement de priorités que parfois certaines priorités en cachent d'autres. Mais je crois qu'il faut se projeter dans l'avenir. Il ne faut pas travailler que sur du court terme. Il faut avoir une vision beaucoup plus longue, beaucoup plus lointaine. Et c'est pour ça que les hommes politiques africains sont interpellés. Et c'est aussi une des raisons pour qu'on vienne ici, qu'on voit ce qui se passe ailleurs, quelles sont les solutions qui ont pu être développées dans certains pays, qui ont eu aussi des difficultés comme nous, et qui ont pu quand même les résoudre. Aujourd'hui, les énergies renouvelables font partie des choses sur lesquelles il faut que nous travaillions, et nous avons des possibilités énormes.
Et votre pays a une potentialité énorme à la matière.
Absolument, nous avons des potentialités liées bien sûr au soleil de façon générale, mais nous avons aussi énormément de sites, de barrages, de micro-barrages pour pouvoir avoir de l'énergie renouvelable. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons des fleuves, nous avons beaucoup d'eau. Donc il y a énormément de possibilités aujourd'hui pour sortir de la précarité. Et c'est pour ça que nos responsabilités, comme vous dites, les responsables africains sont très très grandes. Il faut qu'on les assume et qu'on les assume pleinement.
C'était Soumaïla Cissé, l'homme politique malien rencontré au Bourget en France, où se déroule la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Kossivi Tiassou au micro depuis Bourget. Restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.